Merci beaucoup, merci, merci à tous, merci à ceux qui ont pris l'initiative de cette rencontre, merci de nous accueillir. Un petit merci particulier pour Emmanuel Soulski qui est quelque part par là et à qui l'idée de cette manifestation est due. Il est chez nous à la chaire depuis quelque temps, nous en sommes très 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 heureux. Je suis vraiment très très content de pouvoir discuter avec vous, vous présenter un petit peu, puis discuter avec vous cet ouvrage, vous en expliquer un petit peu la genèse. Il en est à sa deuxième édition. Permettez-moi juste de rectifier une chose. Nous ne sommes pas deux auteurs, nous sommes deux directeurs, mais je me tourne vers Émilie Chevalier, qui a été la maîtresse d'œuvre de la deuxième édition. 35-40 auteurs.
Voilà. 40 auteurs.
Nous avons
oui, vous en êtes les directeurs d'édition.
Nous avons coordonné. Alors, cet ouvrage en est à sa deuxième édition. Je dois dire, je suis très curieux de connaître votre point de vue sur l'idée même de droit administratif européen, sur cette façon d'approcher les choses, parce qu'elle n'est pas totalement naturelle, j'en suis tout à fait conscient. Et on s'en est bien aperçu lorsqu'on a lancé l'idée de cet ouvrage, la première édition, 2007, sauf erreur, donc on a commencé ça en 2004-2005, et on s'est bien rendu compte de ce que, pour beaucoup de nos interlocuteurs, d'auteurs qu'on essayait d'attirer, c'était un concept étrange, enfin, pas du tout naturel, et même pour beaucoup absolument contestable. Alors, moi, je m'étais tourné vers Jacqueline Dutheil de La Rochère, qui était... Moi, je suis administrativiste, plutôt, elle est communautariste, et à l'époque, elle présidait l'Université de Paris 2. Je m'étais tourné vers elle en lui disant, écoutez, Jacqueline, mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que j'ai dans ma bibliothèque de nombreux ouvrages en anglais, ça s'appelle « Droit administratif européen », celui, par exemple, de Paul Craig, qui est une référence absolue. J'ai une série d'ouvrages en italien, il y en a plein, Mario Chitti et quelques autres. J'avais même trouvé un ouvrage en espagnol, exactement sur cette thématique, qui, en tous les cas, je savais bien qu'un certain nombre de collègues administrativistes espagnols avaient parfaitement intégré cette nouvelle thématique. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas chez nous? Alors, j'ai un peu de mal à la convaincre, certaines... personne que j'aimais vraiment beaucoup, mais là, un petit peu conservatrice parfois. Donc, ça a hésité, un petit peu prudente, on s'est dit, est-ce qu'il faut y aller? Et on a fini par se lancer, réunir un groupe, on s'est vu de temps en temps, on a fabriqué ce livre, qui a connu une existence éditoriale et économique, disons moyenne. Mais l'éditeur a bien voulu accepter que nous fassions une deuxième édition, donc sortie récemment. Et alors on constate une chose, ça m'intéresse encore une fois beaucoup de savoir quelle est votre réaction, vous, ici. On découvre une chose, c'est qu'une sorte de déclic semble s'être produit dans la doctrine française, à la fois administrativiste et européaniste. Et elle semble prête à accueillir l'idée, le concept et ce domaine de recherche qu'est le droit administratif européen. Et au fond, nous avons déjà fait une manifestation de ce type à Paris, on va faire une à Montpellier, on va faire une à Toulouse, etc. Donc l'idée commence à s'imposer en France, semble-t-il. Alors, Qu'est-ce que je vais essayer? Préparant cette intervention, je me disais, demander ce qui pouvait vraiment vous intéresser. Donc, pardonnez-moi si mon propos vous paraît banal par moment. Un mot d'historique sur mais très bref sur le mouvement de développement du droit administratif en Europe. Très, très bref, vous en savez autant que moi sur le sujet. Ensuite, j'essaierai de vous dire comment on peut comprendre, me semble-t-il, comment nous comprenons dans le livre la théorie du droit administratif européen. Et je développerai un peu ensuite, parce que Notre idée est que s'il existe quelque chose qui est, qu'on peut appeler droit administratif européen, c'est fait de deux sous-ensembles. Le droit administratif des institutions européennes, au sein des institutions européennes, ce qu'on peut considérer comme du droit administratif, mais qui inclut, par exemple, la fonction publique que vous connaissez très bien, et puis le droit administratif, l'européanisation des droits administratifs nationaux, c'est-à-dire l'impact que le droit européen exerce sur les droits administratifs nationaux, en leur imposant certaines règles parfois, ou en les influençant de manière plus indirecte. Et je terminerai, si je n'ai pas été trop long, je terminerai par quelques réflexions en prospective sur l'évolution probable de cet objet, droit administratif européen, si vous acceptez avec moi de considérer qu'il existe bien. Alors, on va dire d'abord ceci. Je ne vais pas développer longuement la question, mais si on regarde l'Europe avec un œil de droit administratif, si je peux dire ça ainsi, on se dit, il y a eu, très grossièrement, il y a eu un moment fondateur, fin 18e, début 19e, avec un modèle français assez fort, naturellement. Et puis, à l'époque contemporaine, il y a deux ou trois grands phénomènes qui viennent et qui sont très importants pour constituer le background de ce qui va être le droit administratif européen. C'est l'apport de certains systèmes que je qualifierais de post-dictatoriaux, c'est-à-dire l'apport du système allemand, mais aussi ce qui viendra d'Espagne, ce qui viendra des pays ex-communistes, qui tous ont apporté leur contribution à l'enrichissement du droit administratif, et un autre phénomène clé, sorte de révolution historique, qui est le ralliement de la tradition britannique au droit administratif. Les Anglais, pendant un siècle au moins, vont considérer qu'ils n'ont pas de droit administratif, et au milieu de, enfin, dans les années 60-70, on va dire quelque chose comme ça, ils changent d'optique. Et ils acceptent d'avoir un droit administratif. Ils ont même un segment de leur High Court qui s'appelle the Administrative Court, enfin, ralliement. Pas que tous les modèles soient absolument identiques, mais il y a ralliement. C'est-à-dire que il faut tout de même avoir dans l'esprit le fait que le droit administratif n'est pas une chose partielle en Europe, elle est quelque chose que l'on trouve partout. Et partout et un peu à tous les niveaux. C'est un élément constant et naturel du droit dans le système européen. Alors, si on avait le temps, évidemment, il faudrait ajouter que le droit administratif n'est pas le même partout, il n'est pas le même dans les pays de common law, il n'est que dans les pays continentaux, il n'est pas le même en Allemagne qu'en France ou en Italie. Je crois que c'est pas nécessaire de rentrer dans ces détails-là. Je vais simplement dire ceci. Il y a un panorama existant de droits administratifs présents partout. Alors, le concept, la théorie du droit administratif européen, d'où est-ce que ça vient? Un mot sur la façon dont ça émerge. On pourrait raisonner en termes de réalité administrative et de jurisprudence sur les questions administratives. C'est-à-dire, on pourrait dire il est clair que l'Union européenne recèle des mécanismes de type administratif, des institutions de type administratif. C'est pas, et naturellement, les institutions européennes ne sont pas faites comme des conférences diplomatiques classiques. On y trouve plus d'experts que de politiques, etc. Bref, il y a un aspect administratif tout à fait évident. Il y a une jurisprudence. On cite souvent l'arrêt Algérard, ça doit être 57, si je ne me trompe. Un arrêt qui pose typiquement un problème d'acte administratif, exactement comme on en trouve dans les droits nationaux. Donc, il y a une réalité concrète de juridique administrative que le droit européen montre progressivement, et à un moment donné, des auteurs vont proposer de construire là-dessus une théorie, un concept pour un administratif européen. Il y a un père fondateur, très certainement, qui est Jürgen Schwarze. Jürgen Schwarze, c'est un collègue allemand qui passe quelques années à Florence, à l'Institut européen de Florence, et ces quelques années, il les consacre à écrire un bouquin, Droit administratif européen, qui va être publié en français, enfin, en allemand, en anglais, en français, etc., qui est l'ouvrage fondateur. Et puis l'idée va se répandre, je citais la sphère italienne, elle est très importante dans la diffusion de cette idée-là, et puis ici et là. Qu'est-ce que ce concept, cette théorie, qu'est-ce que ça entend cerner? Comme je le disais il y a un instant, deux choses. Enfin, dans la façon dont nous le voyons. J'admets parfaitement qu'il y en a une autre plus restrictive. Mais pour nous, s'il existe quelque chose qu'on peut appeler droit administratif européen, c'est fait de deux volets. Le droit administratif des institutions européennes, le droit administratif au sein du droit européen, on peut le dire aussi comme ça. Et deuxième volet, l'influence, l'impact que le droit européen exerce sur les droits administratifs, sur les droits administratifs nationaux. Voilà les deux sous-ensembles. On peut discuter, dès ce stade-là, on peut entrer dans une discussion sur le point de savoir si ce champ est vraiment clair. Si c'est un domaine qu'on peut clairement délimiter. On peut le discuter. Je l'admets parfaitement. On peut dire, par exemple, mais au sein du droit européen, comment cernez-vous exactement ce que vous appelez droit administratif? Au sein du droit de l'Union européenne. C'est quoi exactement? Ça s'arrête où? Pas totalement évident, parce que ça n'est déjà pas toujours facile dans la sphère nationale, mais dans la sphère européenne, distinguer ce qui est du registre de l'exécution et non pas la législation. C'est pas absolument évident. C'est plus difficile que dans la sphère nationale. Même si, peut-être, le traité de Lisbonne a un peu clarifié les choses, c'est un peu plus difficile. Hein. Quels sont les pouvoirs exécutifs au sein de... et quels sont ceux qui sont législatifs? Vous allez répondre que c'est assez compliqué. Hein. Plus compliqué qu'au stade national. Donc, il peut y avoir indiscutablement un problème de délimitation. Et un problème de distinction entre ce qui serait droit administratif au sein du droit de l'Union et ce qui serait autre chose, qui serait droit constitutionnel, je ne sais pas. On peut discuter. Sur le plan, du côté du deuxième volet, la discussion est possible aussi, hein, parce que dans notre esprit, le droit administratif européen, c'est aussi donc l'impact que le droit européen. D'ailleurs, au passage, la combinaison du droit de l'Union et du droit de la Convention, tout ça étant vraiment inséparable aujourd'hui, l'impact que cela exerce sur les droits administratifs nationaux. Mais on peut avoir quelques... on peut débattre. Non ? L'impact sur les droits administratifs nationaux... c'est un impact parfois, disons, d'obligation, enfin en termes d'obligation. Vous êtes tenu dans votre droit administratif national de respecter les principes et les règles du droit de l'Union. Et c'est parfois un impact beaucoup plus indirect, beaucoup plus informel. C'est ce qu'on va appeler des effets de spillover. C'est le fait que, par exemple, les Anglais importe à un moment donné, parce qu'ils n'ont pas le choix, le principe de proportionnalité, parce que le droit de l'Union le leur impose, mais ils trouvent que c'est pas mal comme principe pour régler certaines questions, et donc ils l'étendent. Et qu'à tout le monde. C'est pas seulement du registre de l'impact juridique direct. Et même, j'ajouterai ceci, L'impact juridique direct de l'Union européenne, du droit de l'Union, sur les droits administratifs nationaux, comment se cerne-t-il exactement? C'est pas à vous que j'apprendrai que, selon la jurisprudence actuelle de la Cour de justice, cela ne se réduit pas, le champ de cette influence-là, ne se réduit pas aux situations de mise en œuvre stricto sensu. Les principes du droit de l'Union s'appliquent aux administrations nationales, non seulement lorsqu'elles sont dans une mécanique de mise en œuvre stricto sensu, mais dans tous les cas où elles sont placées dans le sous des règles communautaires. Ah, il y a un problème de frontières qui n'est pas absolument évident. Donc, on peut dire aussi que les deux volets que nous ajoutons sont différents, enfin, qui sont un peu dissemblables, c'est-à-dire le droit administratif au sein du droit de l'Union, l'impact sur le droit administratif national. J'admets qu'on dise que ce sont deux objets sensiblement différents. Nous avons tendance à penser qu'ils sont unis par une même mécanique, qui sont le produit de la même dynamique. Donc on peut les mettre ensemble et qu'à un moment donné, ils se rejoignent pour apporter une contribution en termes de droit administratif à la construction juridique européenne. Ils se rejoignent, ils jouent conjointement. Ça, c'est notre thèse, hein. À discuter. Alors, je voudrais donner quelques précisions sur ces deux volets et la façon dont nous efforçons de les analyser. D'abord, la part du droit administratif européen qui consiste dans le droit administratif des institutions européennes, le droit administratif au sein du droit de l'Union. Alors, sous ce chapeau-là, qu'est-ce qu'on peut envisager d'étudier et qu'est-ce que nous avons étudié dans l'ouvrage? Des organes administratifs, des organes les plus ordinaires de l'Union, mais aussi les agences, etc. Les principes du droit administratif européen, la bonne administration, naturellement, mais aussi l'égalité, proportionnalité, etc. Les instruments, les actes qu'on peut considérer comme de nature administrative, mais aussi la responsabilité de l'Union européenne pour le fonctionnement administratif, le contentieux de tout ça. Voilà les objets que nous étudions dans l'ouvrage de façon un peu systématique. Ce corpus-là, qui est la moitié dans notre esprit du droit administratif européen, bien sûr, il présente des caractéristiques intéressantes qu'on essaie d'étudier. Je ne sais pas si nous le faisons bien, mais qu'on essaie d'étudier dans le droit. Bien entendu, il est influencé par la mécanique d'administration indirecte ou de co-administration, que je voudrais, qui est consubstantielle de l'Union européenne et qui donne au mécanisme administratif de l'Union un tour un petit peu particulier. Une autre de ses caractéristiques est, pour le moment, l'absence d'une codification, je vais y revenir, c'est-à-dire le droit administratif, le droit du fonctionnement administratif des instances de l'Union est, pour le moment, largement sectoriel. À l'intérieur de grands principes, il est largement abandonné aux législations particulières qui vont indiquer comment doivent fonctionner les autorités en matière de concurrence, en matière de fonds structurels, de manière particulière. Il a d'autres caractéristiques sans doute, une certaine importance donnée à la dimension subjective, peut-être plus que les droits nationaux, avec par exemple le droit à une bonne administration. Donc voilà le genre de choses que nous efforçons de déceler. C'est-à-dire, c'est un droit administratif qui a des propriétés, quelquefois non originales par rapport au droit administratif, enfin, qui rappellent certains droits administratifs nationaux, ou peut-être qui rappellent des éléments communs à tous les droits administratifs européens, et parfois il a des caractéristiques particulières. Il connaît aussi ses évolutions, avec des évolutions récentes, qu'on a évidemment intégrées dans la deuxième édition d'ouvrage, comme le traité de Lisbonne, ce qu'apporte le traité de Lisbonne, par exemple, une certaine clarification dans la typologie des actes, une certaine clarification, par au-delà, la charte des droits fondamentaux, naturellement, dans l'apport sur le, au droit administratif de l'Union est fort, pas seulement avec la bonne administration, évidemment, c'est un élément fort. Le renforcement constant des liens avec la Convention européenne, qui est aussi source d'influence très très forte sur le droit administratif. Et puis le projet de codification en cours, comme vous savez bien, puisque le principe a été posé il y a quelques mois, donc, les rouages européens sont en train de fabriquer une loi générale de procédure, une sorte de code de procédure administrative. Alors, du côté maintenant de la part du droit administratif européen qui consiste non plus dans la part de droit administratif que recèle le droit de l'Union ou le droit administratif des institutions de l'Union, mais ce qui se trouve du côté de l'européanisation des droits administratifs nationaux, l'impact des droits administratifs nationaux. Je voudrais, pour expliciter un peu la démarche que nous avons suivie, prendre un exemple. Cet exemple, c'est celui de l'européanisation du contentieux administratif. C'est un exemple... C'est particulièrement intéressant, je crois, à divers titres. L'une des raisons est que, a priori, il n'est pas très évident que les contentieux administratifs nationaux soient fortement impactés par le droit européen. Or, nous savons aujourd'hui qu'ils le sont assez fortement. Je vais donner des exemples. Nous savons qu'ils le sont assez fortement parce que... l'Union européenne est soucieuse d'effectivité, d'efficacité dans la mise en œuvre de ses normes et de ses politiques. Que ces normes et ces politiques se mettent en œuvre très largement par des mécanismes administratifs et très largement par des mécanismes administratifs nationaux. Et donc, il faut que des juges nationaux, les juges de l'administration nationale, veillent scrupuleusement à l'application correcte des normes européennes. Donc, il y a beau y avoir un principe d'autonomie procédurale, sympathique principe d'autonomie procédurale, l'autonomie procédurale s'arrête là où commence la moindre menace pour l'effectivité de l'application des normes européennes. Et ça a conduit le droit de l'Union européenne à émettre des exigences, ici et là, à l'égard des contentieux administratifs nationaux. Alors, ici on ne peut pas, je crois, isoler l'impact du droit de l'Union de celui du droit de la Convention, parce que tout ça s'entremêle, et fait aujourd'hui un degré élevé, produit aujourd'hui un degré élevé d'européanisation des contentieux administratifs nationaux, je crois. Je donne des exemples. L'impact du droit européen produit des transformations sur ou des influences, l'impact sur les organes du contentieux administratif, l'exigence d'impartialité qui est commune d'ailleurs au droit de l'Union et au droit de la Convention, et dont on sait combien elle est forte du côté de la Convention, et même avec quelquefois des effets fortement perturbateurs. Nos juridictions des comptes, par exemple, ont dû transformer puissamment certains aspects de leur fonctionnement, parce que droit de la Convention. Mais on pourrait donner plein d'exemples, et je suis sûr qu'il en existe ici aussi. Les procédures de contentieux administratif national sont-elles exemptes de toute influence? Diable, non. Et notre panoplie, ici et là, des procédures d'urgence s'est enrichi du contentieux administratif, s'est enrichi sous la pression du droit européen. Nous, comme vous, j'imagine, nous avons été conduits à créer des procédures de référé précontractuelles et contractuelles en matière de marché public et compagnie, très inédites. Et alors surtout la procédure de référé contractuelle, une procédure de référé que l'on peut actionner après la signature du contrat, avec la possibilité de faire disparaître le contrat, que le juge décide de faire disparaître le contrat. C'est un peu fort de café, mais ça c'est l'exigence des directives. Demander aux Anglais ce qu'ils pensent du fait qu'à un moment donné, un certain arrêt Factor Time a imposé à leur juge d'accepter ce qu'il se refusait à faire depuis le Moyen-Âge, d'adresser des injonctions à la couronne, au gouvernement britannique. Effet sur les recours, tant le droit de la Convention que le droit de l'Union européenne poussent à élargir le champ de la justiciabilité des actes. Un acte de gouvernement, je ne sais pas comment on dit dans le droit administratif belge, nous disons acte de gouvernement, les Italiens disent acte politique, vous voyez, c'est l'acte de haute politique que nos droits administratifs traditionnellement considèrent comme ne pouvant pas faire l'objet de recours, mais le droit européen les considère avec beaucoup de suspicion lorsqu'ils sont le véhicule possible des normes et des politiques européennes. Nous avons eu des affres avec une institution, certains d'entre vous sans doute la connaissent, une institution extrêmement traditionnelle de notre justice administrative, qu'on appelle les commissaires du gouvernement, qu'on appelait, pardon, les commissaires du gouvernement, parce qu'on a fini par changer la relation. Le commissaire du gouvernement, c'est pas un représentant du gouvernement, contrairement à ce que le nom maladroitement indiquait, c'est bien de l'avoir changé. C'est un juge, un membre du tribunal administratif ou du Conseil d'État, mais qui ne fait pas partie du panel de juges décidants. Il est à côté et son rôle est de suggérer une solution. Jusqu'à il y a peu, ce fameux commissaire du gouvernement, il était le dernier à s'exprimer dans le procès et personne ne pouvait lui répondre. Et en plus, il participait au délibéré. Alors, ce n'était pas un juge jugeant, il était un extérieur au panel de juges ayant à décider et simplement appelé à donner son opinion, ce qu'il continue à faire pendant le délibéré. Alors la Cour de Strasbourg a fini par faire comprendre que c'était pas très très bien. Donc, non seulement on a changé l'intitulé de l'institution, mais on a fait en sorte que les partis puissent répondre et les commissaires du gouvernement ne participent plus au délibéré. Parfait, aucun problème. Il ne participe plus au délibéré, sauf au Conseil d'État, mais il participe en restant muet. Ouais, ça a été très très troublant pour beaucoup, cette affaire du commissaire du gouvernement, vous n'imaginez pas. Bref, une série d'impacts sur aussi le contrôle du juge, pour évoquer le contrôle du juge, la proportionnalité, des choses comme ça. Je n'ai pas besoin de démontrer davantage, je crois, que voilà un exemple de champ du droit administratif national qu'on pouvait imaginer relativement exempt d'impact fort du droit européen et qui se trouve assez fortement influencé. Donc voilà, nous avons étudié ce genre de choses dans l'ouvrage, en essayant de déceler l'impact du droit européen dans le domaine de l'acte administratif, du contrat administratif, du contentieux administratif, etc. Alors, après avoir fait cette analyse point par point, si vous voulez, domaine d'influence par domaine d'influence, on s'est interrogé un peu. On aurait pu le faire davantage, on le fera dans le futur davantage, et avec vous, enfin, toutes vos idées sont bienvenues, sur essayer de faire une analyse plus systématique de cette influence qui n'est pas facile à cerner, à comprendre, à analyser, parce que elle n'est que partiellement directe, comme je l'ai dit. Elle est faite de deux, elle vient de deux sources, la Convention Union européenne. Les droits administratifs, nos droits administratifs européens, subissent d'autres influences. Ils sont immergés dans la globalisation juridique. Ils s'influencent les uns les autres. Donc c'est plutôt assez compliqué. Il y a des phénomènes verticaux, mais il y en a aussi d'autres qui sont horizontaux, parce que la construction européenne se remplit de plus en plus de transnationalités, de mécanismes transnationaux, de mécanismes horizontaux. Tout ça fait des choses un peu compliquées à analyser, mais l'existence des phénomènes n'est pas... L'existence massive des phénomènes n'est pas difficile à constater si on fait le travail que nous avons fait. Alors, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que on ne s'est pas trop essayé à faire la prospective, mais enfin, un petit peu, et moi ça m'intéresse, en fait, ça m'intéresse beaucoup de prolonger la réflexion, de la prolonger le cas échéant avec vous, sur si tout ça s'existe bien, si ça a un sens de le voir comme ça, le droit administratif européen, alors il est intéressant de se demander vers où ça va. Est-ce que ça s'intègre de plus en plus pour constituer un ce que certains appellent un espace administratif européen? Est-ce qu'il y a une construction administrative commune à l'Europe qui est en train de se mettre en place au travers des éléments que j'évoquais? Quel rôle la crise peut-elle bien jouer dans cette affaire? Dans la mesure où elle semble pousser un renforcement des mécanismes européens, au développement d'un gouvernement économique européen, est-ce que ça a un impact sur le sujet? Vous voyez, c'est le genre de questions que l'on peut se poser. Et puis enfin, moi je suis très convaincu qu'on analyse habituellement trop, mais c'est peut-être justifié historiquement, l'impact du droit européen, l'européanisation de notre droit, sur un mode vertical, c'est-à-dire c'est éventuellement dans les deux sens d'ailleurs, mais vertical. Alors que il est probable que dans le futur, ce qui se joue est aussi fortement de nature horizontale. C'est l'entrecroisement de notre droit par l'effet de tout un tas de mécanismes que je n'ai pas besoin de vous expliquer, mais pas la directive service. Voilà. Si on analyse et on étudie la directive service, on se rend bien compte que les droits, et là, les droits administratifs, pour beaucoup, n'est-ce pas, sont en train de s'entremêler sous la vision du droit européen, mais ils sont en train de s'entremêler, de s'entrechoquer, et l'un des grands enjeux du droit administratif européen, si on admet que ça existe, l'un des grands moteurs de son développement de demain, c'est la façon dont ces relations administratives, transnationales, horizontales, vont se gérer juridiquement.